Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La situation humanitaire catastrophique au Soudan, le pays en proie à une guerre depuis avril dernier entre les militaires et les paramilitaires. Les troupes françaises déployées au Niger vont amorcer leur retrait du pays dans la semaine, une annonce de l'état-major des armées. L'Azerbaïdjan annonce l'arrestation d'un ex-président du Haut-Karabakh. Le pays vient d'emporter une victoire éclair contre les Arméniens. Les forces israéliennes ont tué deux Palestiniens en Cisjordanie occupée, une annonce du ministère palestinien de la Santé. La lutte contre le harcèlement scolaire en France. Nous reviendrons sur le plan présenté la semaine dernière par la Première ministre avec Nathan Smadja, fondateur de l'association Résiste. L'écrivain John Foss, lauréat du prix Nobel de littérature 2023. La situation humanitaire catastrophique au Soudan, le pays qui est en proie à une guerre depuis avril dernier, une guerre entre les militaires et les paramilitaires. L'ONU déplore le manque criant de fonds et l'insécurité liée aux violents affrontements que se livrent les deux factions rivales. Et cela freine les efforts de l'Organisation des Nations Unies pour apporter une aide à 18 millions de personnes dans le besoin. L'armée française débutera son retrait du Niger dans la semaine. Nous allons lancer l'opération de désengagement dans la semaine. En bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigériens. Voilà ce qu'a indiqué l'état-major des armées. Une annonce à l'issue d'un bras de fer de plus de 2 mois avec le régime militaire issu du coup d'état du 26 juillet contre le président Mohamed Bazoum. L'Azerbaïdjan annonce l'arrestation d'un ex-président du Haut-Karabakh. Le pays vient d'emporter une victoire éclair contre les Arméniens. Araik Aroutyunian avait dirigé l'enclave jusqu'au mois dernier. Il a été placé en détention. Il est, selon les autorités, soupçonné d'avoir mené une guerre et engagé des mercenaires violant les principes humanitaires internationaux. Voilà ce qu'indique le bureau du procureur général azerbaïdjanais. L'historien Michel Marian reviendra ce soir à 19h et 23h dans l'émission Et si on en parlait sur ce conflit qui oppose l'Azerbaïdjan à l'Arménie. Extrait de cette émission.
On était dans une situation très instable depuis 2020, c'est-à-dire depuis la guerre qu'avait remportée l'Azerbaïdjan, qu'on a appelée la deuxième guerre du Karabakh. L'Azerbaïdjan l'avait remportée, ça s'était conclu au bout de 44 jours par un cessez-le-feu sous l'égide de la Russie et qui prévoyait plusieurs clauses. L'une des clauses était la préservation d'un corridor entre l'Arménie et le Karabakh. Donc une partie importante était redevenue azerbaïdjanaise. Ça, c'était un premier point. Deuxièmement, l'ouverture de routes commerciales dans le sud, entre le Nakhitchevan, qui est une exclave azérie, et l'Azerbaïdjan, j'allais dire, principal, à l'est de l'Arménie, à travers l'Arménie. Donc c'était, il y avait au moins ces deux points, et puis il y avait en principe le fait d'aller vers un accord de paix sous l'égide de la Russie. Mais la situation, je l'ai dit, était instable après cet accord pour deux raisons principales, mais d'autres aussi. D'une part, la Russie était déjà dans une période d'affaiblissement, puisqu'elle avait laissé faire la reconquête partielle du territoire du Karabakh par l'Azerbaïdjan, et elle avait ensuite présidé à la peine, mais elle n'était pas l'auteur véritablement de toute cette opération. La guerre en Ukraine l'a encore affaibli, au sens où parmi les 2000 soldats d'interposition russe au Karabakh, on dit, là ce ne sont pas des chiffres officiels, que 500 à peu près avaient déjà été rapatriés sur le front ukrainien. Ça, c'est la première cause d'instabilité. La deuxième cause d'instabilité, c'est que voyant cela, les Occidentaux ont essayé d'avoir une présence qu'ils n'avaient pas dans cette région depuis au moins 1920, disons, et donc de mettre à profit l'affaiblissement stratégique de la Russie, avec laquelle, évidemment, leur relation s'était fortement dégradée à cause de l'invasion de l'Ukraine entre 2020 et 2022. Et troisièmement, enfin, le président Aliyev, qui avait pu vérifier que les achats d'armes auxquels il avait procédé, l'aide et probablement même plus que l'aide, l'inspiration, le guidage par la Turquie, les livraisons d'armes israéliennes, tout ça l'avait mis dans une situation de très grande supériorité et qui a fait d'impatience à l'idée d'aller plus loin, c'est-à-dire de reconquérir tout le Karabakh. Ça, c'était les causes d'instabilité. Alors, en face de ça, se sont mis en place, j'allais dire, des balais diplomatiques, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs circuits de négociations qui ont été mis en place. L'un qui était prévu par l'accord de 2020 par la Russie, et deux autres, l'un avec l'Union européenne sous la conduite de Charles Michel, et l'autre avec les États-Unis sous la conduite d'Anthony Blinken. Et ce sont l'ensemble de ces circuits diplomatiques qui, quoique étant nombreux, étant en concurrence, voulant faire mieux que le voisin, etc., ont montré leur unanimité lorsque l'Azerbaïdjan a attaqué dans cette guerre éclair dont vous avez parlé au début.
L'historien Michel Marian, il est l'un des invités de Si on en parlait ce jeudi soir à 19h et 23h, émission présentée par Alexis Bachelet. Les forces israéliennes ont tué deux Palestiniens en Cisjordanie occupée, une annonce du ministère palestinien de la Santé qui indique que les deux hommes ont été tués près de Tul Karem. De son côté, l'armée israélienne fait état d'une fusillade après que des soldats ont identifié un véhicule suspect près du village de Choufa. Depuis le début de l'année, au moins 245 Palestiniens et 32 Israéliens ont été tués dans le conflit. Des frappes turques sur des cibles kurdes ont fait 9 morts selon un dernier bilan. C'est arrivé dans le nord-est de la Syrie sous contrôle des Kurdes. Des frappes menées en représailles à un attentat dimanche à Ankara, attentat revendiqué par le PKK. Le ministre turc des Affaires étrangères a affirmé que les auteurs de l'attaque avaient été formés en Syrie. Il a ainsi menacé de représailles les combattants kurdes en Syrie, des combattants que la Turquie accuse d'être liés au PKK. L'ambassadeur de France au Maroc a remis ses lettres de créance au roi Mohamed VI. Christophe Le Courtier a, selon ses mots, exprimé au roi le respect et l'admiration qu'inspire le développement du Maroc de ces dernières années. La première ministre préside ce jeudi un conseil national de la refondation en France. Objectif, partager le diagnostic et les pistes de réflexion sur les émeutes qui ont touché la France au début du mois de juillet dernier. Un comité interministériel des villes qui devait se tenir lundi prochain a finalement été reporté. La première ministre qui promet de mener une lutte implacable contre le harcèlement scolaire. Elisabeth Borne a annoncé mercredi dernier une série de mesures qui vont du signalement systématique des cas à la justice, à la volonté d'exclusion des élèves harceleurs des réseaux sociaux. Sur ce plan anti-harcèlement, entretien avec Nathan Smadja, fondateur de l'association Résiste. Il a lui-même été victime de harcèlement scolaire.
Enfin, ce sujet est pris à bras-le-corps par un ministre de l'Éducation nationale. Et enfin, on nous prend au sérieux. Nous, on avait fait un certain nombre de mesures qui allaient dans le sens et dans la volonté du ministre. Moi, je pense notamment au passeport numérique PIX, de la 6e pour sensibiliser aux risques et aux gestes à adapter en ligne, parce qu'on a un vrai problème aujourd'hui avec la partie cyber du harcèlement. Donc là, il faut accompagner les élèves. C'est à partir de la 6e, ça permet de former, de sensibiliser nos jeunes enfants aux outils numériques. Je pense aussi à la formation de tous les enseignants, tout le personnel éducatif, les AESH, les professionnels de la jeunesse. Ça, c'est un gros point et c'est un vrai marqueur dans la lutte contre le harcèlement. Nous, on a aussi défendu le numéro unique. Maintenant, c'est le 3018 pour le harcèlement à l'école. Donc ça aussi, ça fait partie des mesures qui vont dans le bon sens. Enfin, on a un peu plus de visibilité sur ce qui se passe. Et ça peut permettre aussi aux élèves et aux victimes de harcèlement de libérer la parole. Il y en a d'autres. Hein, je pense à un livret de prévention pour le cyberharcèlement aux enfants, un questionnaire anonyme pour les enfants de CE2 à la 3e. Donc vraiment, ça va dans le bon sens. Après, on parle souvent des cours d'empathie. Mais je pense que c'est important qu'on apprenne aux enfants les relations humaines, parce que finalement, on se rend compte qu'on est un peu dans un monde de brutes. Donc ça aussi, le plus jeune âge, il faut qu'on agisse.
Avec une cellule qui sera dédiée au harcèlement dans chaque rectorat, ça c'est important, notamment concernant la formation du personnel.
Le ministre de l'Éducation a lancé un audit il y a maintenant 2 semaines dans les rectorats et dans les académies. C'est bien de faire remonter, on l'a vu notamment avec le drame de Poissy et le jeune Nicolas qui a mis fin à ses jours. Il faut réellement qu'il y ait une vraie prise de conscience à l'échelle de la société et aussi dans les académies. Donc oui, c'est une bonne chose. Il faut quelqu'un qui coordonne tous les dispositifs mis en place. Il y en a beaucoup. C'est un plan qui est très lourd, même sur le plan administratif. Il faut accompagner les enseignants, il faut accompagner les directeurs et les membres d'administration. Donc c'est une bonne chose.
C'est une difficulté pour les enseignants de repérer un fait de harcèlement ou le fait qu'un élève est harcelé.
Il y a le rapport de Colette Mello sur le harcèlement, la sénatrice de Seine-et-Marne. Il y a un chiffre qui m'a, moi, affligé à titre personnel. C'est 65% des professeurs qui se sentent désarmés face au harcèlement scolaire. Il y a le programme phare qui a été mis en place il y a maintenant quelques années. Il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on l'amplifie et il faut surtout qu'on forme les profs. Aujourd'hui, ils sont pas prêts à gérer une situation de harcèlement. Ce n'est pas évident d'avoir des harceleurs dans une classe, les harceler, gérer les deux. Donc il faut les accompagner et je pense que c'est le plus important. Accompagner les parents aussi, parce qu'on ne peut pas les laisser à l'abandon.
Et souligner que l'élève harceleur a lui-même un problème qui doit être réglé.
La réalité, c'est que on parle beaucoup des victimes, et c'est une bonne chose, heureusement. On parle beaucoup des profs, des professeurs qui font de la majorité du temps et des cas un boulot formidable. On parle pas souvent des harceleurs. Et oui, je suis pour envoyer un message fort et un message de fermeté concernant les harceleurs et vraiment qu'ils prennent conscience que ce qu'ils ont commis comme acte, c'est grave. Après, on peut pas les laisser à l'abandon. Ça reste des enfants mineurs qui forment des futurs citoyens à l'avenir. Donc, on peut pas les abandonner. Donc oui, moi, je suis pour aussi accompagner les harceleurs. C'est très compliqué ce plan à mettre en place, mais je pense que tout le monde est rempli de bonne volonté et ça va dans le bon sens.
C'est un sujet qui a très longtemps été minimisé. Comment est-ce que vous le comprenez, ça?
Il y a une forme d'omerta depuis des années à l'éducation nationale sur ce sujet. Moi, je sais qu'on a essayé de me culpabiliser quand j'étais victime de harcèlement il y a maintenant presque 10 ans, parce que c'est pas évident de gérer une situation de harcèlement. Et puis parce que quand on remonte au rectorat, après, il y a une système de notation qui est un peu complexe, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais remonter une situation de harcèlement à l'académie, c'est pas forcément la chose la plus évidente pour les directeurs d'établissement, les directrices d'établissement. Donc voilà, là il y a une vraie prise de conscience, on en parle beaucoup plus. Je pense que ça va aider aussi les parents à en parler. En fait, il y avait une forme d'omerta à toutes les échelles qui faisait que c'est très compliqué d'agir. Aujourd'hui, que les parents ils sont quand même très conscients de ce qui se passe, les élèves osent parler. Après, il faut évidemment que l'institution soit au rendez-vous. On ne peut pas forcer les élèves et les inciter fortement à parler pour qu'en fait l'institution soit au rendez-vous et qu'on ait encore des drames chaque 2-3 matins.
Vous soulignez que vous avez été victime et qu'on a essayé de vous culpabiliser.
Oui. Moi, j'ai été victime de violences verbales, à caractère homophobe, beaucoup. J'ai subi des violences physiques, une agression sexuelle à la piscine. Et la direction m'a menacé de déposer plainte pour diffamation parce que je les accusais de me mettre en danger. La direction était au courant, n'a rien fait. Le corps enseignant était au courant. La médecine scolaire, l'infirmière était au courant, personne n'a rien fait, personne n'a rien dit. J'étais le problème. Donc on se sent seul face à une cour de récréation qui nous veut la mort. Donc oui, c'est à prendre en compte aussi tous ces éléments. Et c'est aussi pour ça, moi je leur en veux pas aux profs aujourd'hui. Il y a des mauvais et des bons profs. Hein. Vous savez, c'est comme dans toute institution. Après, il faut vraiment faire attention et ne pas, eux, les faire culpabiliser aussi de leur manque d'action parce que parfois ils ne peuvent rien. Et parfois ils se sentent aussi, eux, déjà de base, très coupables de ne pas pouvoir agir parce qu'ils n'ont pas les moyens et les capacités.
Une personne qui peut nous écouter, qui est harcelée à l'école et qui a un sentiment de honte et n'ose pas faire part de cette situation, notamment à sa famille, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui?
J'ai envie de lui dire que quand j'ai subi du harcèlement il y a maintenant 8 ans, c'était la parole ou la mort et que si j'en avais pas parlé, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Que j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a écouté, qui m'a cru, un frère qui m'a défendu dans la cour de récréation, mais sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, et c'est un message pour les victimes, pour les témoins, pour les acteurs de l'éducation nationale. Il faut vraiment faire bouger les lignes et en parler. N'hésitez pas à en parler, vous n'êtes pas une boucave, comme certains jeunes peuvent dire quand je vais dans les établissements scolaires. C'est pas grave d'aller, et c'est même plutôt bien, d'aller voir les profs quand on ne sait pas si une personne est victime. Moi, je place le rôle du témoin au centre de la lutte contre le harcèlement scolaire, parce que c'est eux qui peuvent faire bouger les lignes. Un enfant harcelé va pas forcément avoir le courage ni la force de parler, parce qu'il est victime, enfin, parce qu'il subit des intimidations de toutes parts. Donc, il faut vraiment en parler, acteurs, témoins, victimes, pour essayer de s'en sortir. Moi, c'était la parole ou la mort. Et je le répète parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est que si je n'avais pas osé parler, je serais pas là aujourd'hui.
On parle souvent d'un harceleur, or il s'agit souvent d'un groupe de personnes qui harcèlent un élève. Alors comment cela peut se passer? On ne peut pas renvoyer l'ensemble du groupe?
faut pas envoyer l'ensemble du couple. Après, vous savez, moi, je, et vous le dites à juste titre, mais on parle souvent du chiffre d'un million de victimes de harcèlement scolaire. Un million de victimes, c'est 2, 3, 4 millions de personnes qui harcèlent, qui le font pas forcément consciemment, qui n'ont pas forcément conscience de, d'être méchants, de, d'avoir des propos qui peuvent être nocifs envers les autres. Comment on peut faire? Il y a toujours un meneur de groupe, on va dire. Et là, justement, le décret de Gabriel Attal qui permet aux établissements de virer la personne harcelée. Alors, évidemment, il faut un accompagnement, mais ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'une fois qu'on enlève l'élément perturbateur, et ben, ensuite, ça permet au groupe de se ressouder et de moins criminaliser l'autre et agir en effet de meute. Et c'est ça le plus dangereux, en fait. Il faut vraiment qu'on apprenne, dès le plus jeune âge, à tous les niveaux et à tout le monde, peu importe l'endroit, que la différence, en fait, c'est précieux, et qu'un enfant qui est différent de nous, ben, c'est pas grave, c'est pas dangereux, et c'est même plutôt beau. Donc non, on a un vrai problème sur les discriminations à caractère antisémite, LGBT, les insultes homophobes, tout ça, ça s'apprend. Moi, je parle souvent du programme de MC, qu'il faudra vraiment sérieusement penser à revoir parce que ça va pas, parce qu'on n'apprend rien, parce que c'est pas utilisé comme ça devrait l'être. Donc voilà. Mais tout ça, apprendre à vivre avec la différence, à accepter la différence, c'est très important. Un enfant n'est pas homophobe, n'est pas antisémite. C'est là où il faut qu'on pense à la responsabilité parentale, c'est que ce qui se passe à la maison se traduit dans la cour de récréation. Un enfant, je le disais à l'instant, mais on n'est pas homophobe, on se dit pas, tiens, un jour, je vais détester les homosexuels, je vais détester les juifs. C'est qu'à la maison, il y a un vrai problème, c'est que les parents répètent, et maintenant, en plus avec les réseaux sociaux, les enfants voient à travers Internet, et apprennent beaucoup de mots qui, à leur âge, moi, me choquent quand ça sort de leur bouche.
Nathan Smadja, fondateur de l'association Résiste, qui lutte contre le harcèlement scolaire. L'écrivain John Foss, lauréat du prix Nobel de littérature 2023, le dramaturge dont l'œuvre est jouée dans le monde entier, également romancier, est le quatrième Norvégien à recevoir cette distinction. Vous êtes bien sur Radio Orient, et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, après la guerre du Haut-Karabakh, quelles conséquences? Les invités d'Alexis Bachelet, Cédric Van Stevendel, maire de Villeurbanne, et l'historien Michel Marian. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient, et un très grand merci pour votre fidélité.